Matin à chacun, chacune d'entre vous. Vous allez bien ce matin?
Oui.
Hein, c'est toujours une grande joie que de pouvoir assister comme ça à des baptêmes. Mais des fois, je me dis, déjà avec ce qu'on entend dans les témoignages, on dit, il me semble déjà, c'est tellement clair. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Mais effectivement, des fois, c'est de répéter des petites choses, c'est de taper un peu comme sur un clou, qu'on parvient maintenant à comprendre des choses un peu plus de manière un peu plus claire. Et vous savez, ce matin, j'ai pensé commencer ce court message avec une question à votre égard. Je vais vous poser une petite question qui en regard de deux citations, et j'aimerais que vous me disiez, si possible, qui a dit ces choses-là? OK? Facile, dans le fond. Une citation, puis vous me dites qui a pu dire ça. C'est une citation qui est quand même assez célèbre, du moins la première. Être ou ne pas être, voilà la question. Qui a, bon, il y en a qui l'ont répété en même temps que moi, en tout cas. Mais qui l'a dit, ça? D'où ça vient?
Shakespeare.
De Shakespeare, effectivement. Donc, être ou ne pas être, voilà la question. Bon point. La deuxième, maintenant. Vous êtes prêts? Être chrétien ou ne pas être chrétien, voilà la question. Qui a dit ça? J'ai dit que la deuxième était moins célèbre. Mais on ne sait pas, peut-être que dans 100 ans, on va l'entendre. Être ou ne pas être chrétien, voilà la question. Vous savez, à quelque part, c'est important de comprendre un peu plus qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire que d'être chrétien. Et sans doute que si on faisait un sondage ce matin, puis je posais la question à la salle, aux personnes, êtes-vous des chrétiens? Peut-être que 99%, peut-être même plus, lèveraient la main. Et souvent même, quand on regarde des sondages, dans différents pays, on nous parle des chrétiens qui sont dans ces pays-là, le pourcentage, et ainsi de suite. Mais dans le fond, ça veut dire quoi? Parce que ce matin, si vous avez écouté les deux témoignages, j'ai trouvé ça intéressant, parce que Sylvie, elle nous a dit qu'elle est née dans une famille catholique. Étienne, lui, nous a dit qu'il avait grandi dans une famille chrétienne. Des chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Donc, c'est quoi vraiment être chrétien? J'ai regardé dans le petit Larousse, dans le petit Robert, pour voir qu'est-ce que ça pouvait bien être qu'un chrétien. Et le petit Larousse nous dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui appartient à l'une des religions issues de la prédication du Christ. C'est quelqu'un qui appartient à une religion qui est issue de la prédication du Christ. Donc, ça n'a pas nécessairement trop d'implications, mais ça fait un lien avec une religion, du moins. Le petit Robert, lui, va nous dire qu'un chrétien, c'est une personne qui professe le christianisme. Et là, ce qui est bizarre, un peu après, on va nous dire, un petit exemple, mourir en bon chrétien. J'aurais aimé mieux qu'il marque au moins vivre en bon chrétien, mais dans le dictionnaire, on nous parle de mourir en bon chrétien. Et vous savez, même cette on a des expressions qui sont tirées avec ce mot-là. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on parlait, il y avait une expression populaire qui disait que des personnes qui étaient des chrétiens du dimanche. Oups, là, je ne suis pas tout seul à l'avoir entendu. Donc, des gens qui, un peu comme ce qu'on a entendu ce matin dans le témoignage de Sylvie, qui a des occasions bien spécifiques, vont participer à une activité qui se déroule dans un milieu chrétien. Mais au-delà du dictionnaire, je pense que c'est important qu'on prenne un peu plus le temps d'aller un peu plus en profondeur, vraiment, pour comprendre le sens profond, puis de ce mot-là, mais surtout ses implications. Et c'est ça que j'aimerais faire avec vous ce matin. Et pour ce faire, bien entendu, je n'irai pas dans un dictionnaire. Je vais aller dans la parole de Dieu, dans la Bible en tant que telle. Mais ce qui est curieux, quand vous prenez une concordance et que vous regardez le mot « chrétien », ce mot-là n'apparaît que trois fois dans la Bible, uniquement. C'est comme si Dieu se disait, attardez-vous pas trop au mot chrétien, mais comprenez bien le sens, par contre, que ça veut dire. Et le but de ça, c'est effectivement de mieux comprendre le sens profond de ce mot-là. Et il y a un premier texte, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 11. Et ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai quand même mis quelques versets à l'écran que j'aimerais lire avec vous. Dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au verset 26, il est écrit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétien. C'est intéressant. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, voyez-vous, il y a comme une étape, là, même avant du mot chrétien, les disciples furent appelés chrétiens. Mais comment ils sont devenus chrétiens, ces personnes-là? Bien, pour ça, il faut lire quelques versets juste auparavant. Toujours dans le chapitre 11, les versets 20 et 21 que je vais lire. À partir du verset 19, même pour le contexte. Il est écrit, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Voilà comment les gens sont devenus des chrétiens, des gens qu'après ça, on a appelés chrétiens. C'était des disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter, pardon, je vais reculer un petit peu, c'est que la progression, la démarche qu'il y a eu pour qu'ils deviennent chrétiens, c'est tout d'abord qu'ils entendirent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on vient de lire. Et qu'ensuite, ils crurent cette bonne nouvelle et finalement, se convertir au Seigneur. Voyez-vous qu'il y a une démarche. On ne devient pas un chrétien autrement que par une démarche, je dirais, spirituelle qui doit se faire dans le cœur des personnes, comme on l'a entendu ce matin, d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, de croire cette bonne nouvelle et de se convertir vraiment au Seigneur. Et ça, c'est toute une démarche. Et entendre, c'est une chose. Croire, on va le voir un petit peu plus loin, on va fouiller ça. Mais aussi se convertir au Seigneur. Et ça, le mot conversion, convertir, c'est un mot qui des fois donne une image qu'on ne comprend pas très, très, très bien. Puis en écrivant ça, ces jours-ci, j'ai pensé à une petite illustration qui est bien faible, je vous le dis tout de suite. Quand j'étais adolescent, j'étais dans les cadets de l'air. Je n'ai pas été très, très longtemps, mais j'ai été assez longtemps quand même pour apprendre des choses. Entre autres, oui, Stéphane est content, hein, Benoît, tu devais être un bon cadet. Pas tant que ça. Mais on nous drillait, hein, entre autres. Et en plus, les instructions qu'on nous donnait, elles étaient en anglais. Puis moi, je ne comprenais pas tellement l'anglais, mais ce n'est pas grave, il fallait apprendre à faire ce qu'il faisait. Et je me souviens d'une chose. Quand on était au garde-à-vous, et j'entendais quelque chose, excusez pour le son, là, ça va être bizarre, je vous le dis tout de suite. « Right now, the rough wheel, about turn! » Puis là, tu tournais, check, tic, 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 monsieur! Tout ce que je me souviens, c'était la fin. « About turn », puis que tout le monde tournait, puis c'était « right » en partant. Donc, on tournait vers la droite, puis « check, tic, 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 les pattes tombaient là. Je faisais un 180 degrés. Voyez-vous? C'est ça qu'on me disait de faire. Bien, la conversion, c'est exactement ça. Bien, c'est exactement. C'est une image. Tu t'en vas par là, tu entends, tu crois, et là, tu te convertis. Il y a un changement vraiment qui est radical. Donc, dans les versets qu'on vient de lire, vous voyez toute cette démarche-là, et au travers des témoignages qu'on a entendus ce matin et de ce qu'on voit ce matin, j'aimerais ça que vous reteniez vraiment ces mots-là. Entendre, croire et se convertir. Donc, ça, c'est le premier endroit où on voit le mot « chrétien ». Mais il y en a un deuxième aussi qui, lui, est plus loin, si vous détournez dans le livre des Actes toujours, ça va être au chapitre 26, celui-là. Alors que l'apôtre Paul est emprisonné. Et alors qu'il est emprisonné, il a l'occasion de rendre un témoignage vraiment devant un gouverneur et un roi. Pensez-y, là. Paul, un prisonnier, va aller rendre témoignage devant un gouverneur et un roi. Là. Ramenez ça en 2019, là, vous auriez l'occasion d'aller rendre un témoignage. Bien, sans être en prison, déjà, on va vous enlever ça. Là, OK? Vous avez l'occasion d'aller rendre témoignage devant un premier ministre du Québec, premier ministre du Canada. On va rester ici, on n'ira pas plus loin. Quel privilège! Et l'apôtre Paul, qui a été emprisonné, il raconte dans son témoignage, en chapitre 26, à quel point il était un juif qui était zélé. Lui, sa religion, là, il la pratiquait vraiment avec zèle. Tellement qu'il allait même jusqu'à persécuter les chrétiens, les disciples du Christ. Il les persécutait, il courait après eux autres. Mais voilà que l'apôtre Paul, à un moment donné, s'est converti. il a compris, il a entendu, il a compris, il a cru et il s'est converti. Puis, suite à sa conversion comme ça, sa vie a changé radicalement. Et là, son but maintenant était d'annoncer, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, ou comme on a lu tout à l'heure, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et pour lui, c'était son but ultime, devant n'importe qui, de le partager. Et là, le discours et l'argument de Paul se veut tellement insistant que le roi Agrippa va lui dire au verset 28, pardon, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Hey, Paul, avec tout ce que tu es en train de me dire là, tu veux-tu que je devienne chrétien? Bien, je pense qu'effectivement, les réponses de Paul sont à cet effet que ça serait vraiment son désir. Et pour nous ce matin, en 2019, c'est toujours la même bonne nouvelle sur Jésus, concernant Jésus. Que ce soit celle que Jésus a prêchée, les apôtres, les chrétiens d'alors ou les chrétiens d'aujourd'hui, ça demeure toujours la même bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, voyez-vous, on en a un aperçu, parce qu'on ne fera pas le tour, là, mais un aperçu assez simple dans les versets 17 et 18 que je vous invite à lire et je vais les projeter à l'écran si vous n'avez pas votre Bible. Donc, Paul va raconter son témoignage et là, quelqu'un va peser. Voilà. Il dit ceci lorsqu'il a rencontré Jésus. Il dit, Jésus lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. » Ça, c'est le peuple juif. « Et du milieu des païens. » Ça, c'est les non-juifs. Donc, tout de suite, en partant, dans le fond, ce qu'il vient de dire, « Je t'ai choisi parmi toute l'humanité, à quelque part. Quelles que soient les religions des personnes. Donc, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du peuple des païens, vers qui je t'envoie. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Voyez-vous, déjà en partant, là, pourquoi la bonne nouvelle, elle est là pour ouvrir les yeux, pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Ce que Dieu veut, c'est qu'à quelque part, vous réalisiez que vous êtes, malgré votre religion, malgré vos bonnes œuvres, quoi que ce soit, vous êtes dans les ténèbres, mais il vous aime et il veut vous amener des ténèbres à la lumière. Mais ce qu'il veut aussi, c'est pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus là, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Là, ça se complique. On parle d'une bonne nouvelle, puis pourtant ici, ça implique le pardon des péchés. Et voyez-vous, c'est le point de départ. La bonne nouvelle de Jésus implique toujours la nécessité du pardon des péchés. Pourquoi? Parce que dans la parole, c'est clair, Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, et ainsi de suite. Vous comme moi, on est séparés de Dieu tant qu'on n'a pas rencontré vraiment personnellement le Seigneur Jésus. Malgré tout ce que l'on fait, malgré toute la religion qu'on puisse pratiquer, on est séparés parce que pour Dieu, Dieu voit dans votre cœur, il voit dans mon cœur, il voit très bien que vous avez des péchés ou des fautes, si vous préférez. Vous ne répondez pas aux standards de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et en conséquence, ben, ce que la parole de Dieu montre, que Jésus a dit, c'est que vous êtes séparés. Le pécheur est séparé de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui est comme ça. Un pécheur qui est souillé, justement, par le péché. Mais la bonne nouvelle, ça va plus loin que ça, c'est que Dieu vous aime et Dieu veut que vous soyez réconciliés maintenant avec lui. Et il offre d'être pardonné. Et le pardon là, de Dieu, ce n'est pas comme le pardon humain. Vous savez, des fois, des gens nous blessent. Il y a eu des choses comme ça. Puis tu vas dire, je te pardonne. Il va même arriver, moi je me souviens lorsque j'étais plus jeune et que j'étais sur le marché du travail, on travaillait avec des gens à qui on demandait d'aller chercher des certificats de recherche d'antécédents criminels négatifs. Ça venait prouver que la personne n'avait rien fait de grave au niveau criminel. Mais quand une personne avait fait quelque chose, elle ne pouvait pas l'avoir. Sauf qu'elle pouvait demander un pardon. Saviez-vous que ça existe? On peut demander un pardon après 5 ans. Et là, quand tu fouillais pour trouver de l'information sur une personne, il n'y avait plus rien. Donc, ça permettait à la personne de se retrouver, entre autres, un emploi. Et ça, c'est toujours dans le pardon humain. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, Dieu ne peut pas juste tourner la page. Dieu ne peut pas juste dire, « Ah oui, je te pardonne, c'est correct. » Ou encore, « J'ai tout oublié ça. » Non, non, c'est correct. Non, non. Avec Dieu, le pardon qui vient de lui, c'est un pardon qui exige, à cause de sa sainteté, un prix qui doit être payé. Parce que Dieu est juste aussi. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste et Dieu est saint. Et à cause de ça, ben, il y a quelqu'un qui doit payer. Mais c'est pour ça que la bonne nouvelle, elle implique non seulement la nécessité du pardon des péchés, mais elle implique aussi la foi en Jésus. Pas une adhésion intellectuelle seulement, c'est pas ça du tout, du tout. Mais vraiment un acte du cœur qui va engager la vie tout entière. Et ça, c'est quelque chose, c'est une démarche qui est très, très, très personnelle, vous savez. C'est une démarche qui exige vraiment que notre cœur s'ouvre à lui. Et ça, pour ça, bien, ça prend quoi? Ça prend, comme il est dit ici, la foi en Jésus. J'ai lu à un moment donné un petit exemple qui est encore faible, qui venait de l'école du dimanche, où on montrait un peu c'était quoi la foi. Il y avait une personne qui disait, « Moi, dans mes mains ici, là, savez-vous ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? » Ben voyons, répondez-moi, hein? Qu'est-ce que j'ai? Vous ne savez pas un bonbon, hein? Vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas, OK? Vous ne pouvez pas le savoir. Savez-vous pas quoi? Je ne vous l'ai pas dit puis je ne vous l'ai pas montré. Mais si je vous dis dans mes mains, j'ai mes clés d'auto. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Vous croyez tout ça? Vous ne l'avez pas vu non plus, mais pourquoi s'il y en a qui ont dit qu'ils me croient? Fais confiance. Vous avez cru quoi? À ma parole. Bon, il y en a qui ont douté, là, on a entendu dans la salle, là, mais ça, c'est autre chose, OK? Mais vous avez cru que je les avais. Bien, la foi, là, c'est croire ce que la parole de Dieu dit. C'est prendre Dieu au mot et prendre Dieu au mot par rapport à ce qu'il nous dit sur Jésus et sur son œuvre. Parce que sa personne de Jésus, c'est pas juste le petit Jésus qu'on peut sortir de temps en temps. C'est vraiment plus que ça. C'est celui qui était annoncé, comme Paul dit un peu plus loin dans le chapitre 26, qui devait venir, qui devait avoir une vie parfaite et qui devait se rendre jusqu'à la croix du calvaire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que ce Jésus-là, qui s'est rendu à la croix, il l'a fait volontairement. Et ce qu'il a subi sur la croix, ce n'est pas juste la condamnation par rapport aux hommes. Le plus important, c'est ce qu'il dit au niveau spirituel, c'est que sur cette croix-là, Jésus a porté, comme on l'a entendu tout à l'heure, on l'a chanté, a porté vos péchés, mes péchés. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. C'est ça qu'il veut que vous compreniez aussi ce matin. C'est une œuvre qui est parfaite. C'est lui qui a payé à votre place pour vous réconcilier vraiment avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. Pour être réconcilié maintenant, il est possible d'avoir non seulement le pardon des péchés, mais c'est par la foi en Jésus et en Jésus seul. Et la preuve que Dieu a été satisfait de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ressuscité. Il n'y en a pas d'autres qui ont été ressuscités. Jésus est encore vivant au moment où on se parle. C'est pour ça qu'à matin, quand on lui chante des cantiques, quand les témoignages, on les entend, il les entend lui aussi parce qu'il est vivant. Donc, cette bonne nouvelle-là, elle implique non seulement la nécessité du pardon des péchés, mais la foi en Jésus, mais en plus, cette bonne nouvelle-là, c'est qu'elle nous donne aussi la possibilité d'accepter le plus beau des cadeaux. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, on l'a lu. On a parlé vraiment de sa mort, mais il nous donne aussi un héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés, dans le fond, c'est tout simplement ceux qui ont cru puis qui appartiennent maintenant à Dieu. Et cet héritage-là, il nous l'offre gratuitement. Vous savez, Jésus a dit à un moment donné, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comme on l'a entendu encore dans les témoignages, il a la vie éternelle. L'héritage le plus beau qu'on peut avoir, c'est d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir cette vie vraiment éternelle. Maintenant, la décision, elle est personnelle parce que c'est une démarche qui est personnelle. Qu'est-ce qui était arrivé à Agrippa? Il s'est moqué un petit peu. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, hein? Puis Paul lui aurait dit, ben oui, plaise à Dieu, effectivement. Mais peut-être pas avec les chaînes, là. Mais que tous ceux qui m'entendent, vous deveniez comme moi, hormis les chaînes. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à Agrippa. Sylvie et Étienne, eux, nous ont témoigné tout à l'heure qu'à un moment donné, dans leur vie, ils ont compris. Ils ont accepté par la foi vraiment ce salut gratuit que Jésus leur offrait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le baptême, comme il a été dit, ça a été juste une démonstration. Ça ne change rien le baptême un matin. Ça ne sauve personne. C'est juste qu'ils ont voulu vous faire, par une démonstration très tangible, comment eux, ils sont morts avec Jésus, associés dans sa mort, mais ils sont sortis, ressuscités avec Jésus parce qu'il est vivant et qu'eux vivent maintenant. Mais ils ne veulent pas vivre pour eux seulement. Ils veulent vivre pour celui qui a donné sa vie par amour pour eux. Donc, pour vous maintenant, c'est certain que vous devez vous poser la question. Comment vous allez répondre à cet appel-là? Êtes-vous vraiment un chrétien? C'est important, cette question-là, qu'on se la pose. Parce que ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne ou qu'on pratique une religion, ou qu'on a une bonne morale, ou qu'on fait des œuvres qu'on pense qu'ils vont nous mériter quelque chose. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut devenir chrétien. La seule façon, c'est de s'appuyer sur ce que Jésus a fait. C'est de s'appuyer sur uniquement la grâce que Dieu vous offre par le moyen du salut en Jésus. Et c'est notre prière ce matin, pour ceux qui le connaissent, qu'au travers des témoignages que vous avez entendus, vous puissiez vous aussi saisir vraiment par la foi et goûter à cette nouvelle vie que Dieu veut vous donner parce qu'il vous aime et veut vous faire grandir vraiment en lui, comme on l'a entendu ce matin. Que le Seigneur puisse vraiment accomplir cela dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Stéphane?